RFI, bonjour, 16h en temps universel, bonsoir, 18h à Paris, 19h à Tel Aviv, une demi-heure de plus à Téhéran.
Nicolas Brousse.
Nous ferons le point dès le début de ce journal sur le conflit entre Israël et l'Iran. Échange de tirs de missiles et de frappes aériennes ce samedi encore entre les deux pays distants de plusieurs centaines de kilomètres. L'Iran considère comme une déclaration de guerre l'opération israélienne officiellement lancée pour empêcher Téhéran de développer l'arme nucléaire. Une centaine de morts la nuit dernière après une attaque dans le centre du Nigeria, région en proie à un regain de violence communautaire depuis plusieurs mois. Beaucoup de monde attendu dans les rues américaines ce samedi, manifestation dans plusieurs villes contre la politique de Donald Trump, le président américain qui assistera lui tout à l'heure à un défilé militaire à Washington, une première depuis 1991. Dans 10 minutes, juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe de Mondial Sport. Jusqu'où iront l'Iran et Israël? Un responsable israélien a déclaré que Téhéran avait tiré environ 200 missiles balistiques en 4 vagues, tandis que l'État hébreu dit avoir visé plus de 150 cibles en Iran. Le bilan humain, 78 personnes tuées en Iran, 3 en Israël, bilan provisoire puisque les attaques ne sont pas terminées. Sébastien Farsi nous a rejoint en studio avec les dernières infos. Sébastien, surenchère dans les airs, mais également dans les déclarations.
Oui, Téhéran brûlera si le régime iranien continue à tirer des missiles contre nous, assure Israël. L'Iran, de son côté, promet une riposte encore plus forte. Aucun des belligérants n'est donc prêt à suivre la désescalade recommandée par une grande partie des pays étrangers, des nations qui choisissent d'ailleurs leur camp. La France se dit prête à défendre Israël, alors que la Turquie et la Chine ont condamné l'attaque de l'État hébreu. Benjamin Netanyahou, lui, semble déterminé. Son armée dit que la voie est ouverte vers Téhéran, ce qui veut dire qu'elle aurait abattu l'essentiel des défenses antiaériennes qui menacent ses chasseurs. La capitale iranienne plus que jamais ciblée. Donc, à l'instant, le Premier ministre affirme que son armée visera tous les sites du régime iranien, je cite, dans le but de détruire son programme nucléaire, un programme déjà affaibli ces dernières heures. La partie émergée de l'important site d'enrichissement de Natanz a été endommagée, mais il est difficile pour Israël de toucher les parties enfouies. Or, c'est là où pourrait se trouver l'uranium, qui est la pièce cruciale de ce programme nucléaire.
Les précisions en direct de Sébastien Farsi. Washington a beau souligner que les frappes israéliennes sont une opération unilatérale décidée et menée par Israël sans l'aide des États-Unis. L'État hébreu n'aurait pas pu mener une attaque aussi massive. C'est ce que rappelait ce matin le spécialiste militaire Guillaume Ancel dans notre émission spéciale. Israël avait le soutien des États-Unis.
Les Israéliens ont besoin de la protection des États-Unis. Israël est un tout petit pays. Donc, on va sans doute assister à plusieurs vagues parce que les Israéliens aussi ont des moyens, somme toute, assez limités pour attaquer l'Iran. Ils sont obligés de le faire sur le temps long. Regardez, hier, on a dit c'est une frappe massive. Mais en fait, ils n'ont fait qu'une centaine, entre 100 et 200 frappes sur 24 heures parce que c'est loin. Et par conséquent, pour mener ces raids aériens, ils ont besoin de mobiliser toute leur aviation et qu'ils ne peuvent pas faire autant de frappes que comme ils avaient pu le faire contre le Hezbollah au Liban, qui était juste à proximité. Je rappelle d'ailleurs au passage que c'est les Américains qui fournissent le soutien, mais en fait, les Israéliens sont plutôt bien préparés. L'Iran a tiré au moins 150 missiles. Les dégâts sont très peu importants quand on le rapporte à l'ampleur des moyens qui ont été utilisés.
Guillaume Ancel, l'un des invités de l'édition spéciale des RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem, à retrouver sur RFI.fr. Et Benjamin Netanyahou est en train de donner raison de fait à notre spécialiste, puisque Benjamin Netanyahou déclare à l'instant avoir le soutien manifeste de Donald Trump. En attendant, la diplomatie tente sa chance. Le ministre des Affaires étrangères chinois s'est entretenu tout à l'heure par téléphone avec ses homologues israéliens et iraniens, avec un soutien réaffirmé de l'Iran. Nouvelle attaque dans le centre du Nigeria, une centaine de morts selon les autorités locales. Elle a eu lieu cette attaque la nuit dernière à Yelewat, dans l'état central de Benue, région en proie à une recrudescence de violences communautaires depuis plusieurs mois. Le conflit est récurrent entre éleveurs peuls musulmans et agriculteurs sédentaires, principalement chrétiens, pour le contrôle des terres et des ressources. En Côte d'Ivoire, plusieurs milliers de militants du PDCI RDA ont marché pacifiquement cet après-midi à Abidjan pour exiger la réinscription immédiate et sans condition de leur leader Tidjan Thiam sur la liste électorale pour la prochaine présidentielle. Il a été déclaré inéligible suite à une décision de justice prononcée en avril qui conteste sa nationalité ivoirienne. Marche soutenue par la coalition de l'opposition CAPCI qui réclame aussi des réformes du processus électoral. Afrique Soir, première édition à 18h30, temps universel et heure ivoirienne.
RFI.
Aux États-Unis, une élue locale tuée ainsi que son mari, un autre élu et sa femme qui étaient invités chez eux sont blessés. C'est ce qu'annonce le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, ex-colistier de Kamala Harris pour la présidentielle, qui dénonce un acte de violence politique. Le suspect s'est présenté à leur domicile habillé comme un membre des forces de l'ordre. Il est activement recherché par des centaines de policiers. Une attaque contre des élus qui intervient dans un climat politique tendu après la mobilisation de la garde nationale et maintenant de Marines armés dans les rues de Los Angeles. Plusieurs manifestations sont organisées contre la politique de Donald Trump aujourd'hui. Le président américain, qui lui, favorablement impressionné par le défilé du 14 juillet en France, assistera tout à l'heure à une parade militaire dans la capitale fédérale américaine. Donald Trump souhaite ainsi fêter en grande pompe les 250 ans de l'armée à Washington ainsi que son 79e anniversaire. Coût de l'opération, 45 millions de dollars pour le premier défilé depuis 1991. Et la fin de la guerre du Golfe, ce qui suscite de nombreuses critiques, comme l'explique Elisabeth Shepard-Selam, maître de conférence à l'Université de Tours.
C'est absolument pas dans les habitudes américaines. Des défilés pour des sportifs dans leur ville natale, bien évidemment. Mais on ne déplace pas, en plus pour des raisons aussi logistiques, financières, sécuritaires, on ne déplace pas autant de chars, de militaires aux États-Unis. Ça ne fait pas partie des traditions américaines. On l'a entendu même d'un certain nombre de sénateurs qui, à la base, s'étaient ralliés à Trump, comme le sénateur de Kentucky, Rand Paul, qui a dit que les seuls endroits où on voyait quelque chose comme ça, c'était à Pyongyang et à Moscou, et d'autres républicains qui se sont interrogés sur le coup. C'est pas quelque chose aux États-Unis qui est considéré comme approprié ou normal. Beaucoup d'experts, beaucoup de militaires, de politiques parlent du fait que c'est plus pour lui que pour vraiment célébrer ou fêter les forces armées. Il n'a pas vraiment un respect pour l'armée, ni pour les sacrifices que font beaucoup de nos militaires, mais il a une fascination pour la force.
Des propos recueillis par Marine de la Moissonnière. En France, dans un camp de migrants situé près de Dunkerque, grande ville située sur la route vers l'Angleterre, une personne a été tuée, 5 autres blessés par balle ce matin. 2 suspects placés en garde à vue sans que l'on ne connaisse pour l'instant les causes de cette fusillade. Elle a défendu pendant plus de 30 ans les droits des travailleurs, mais le China Labour Bulletin, une ONG basée à Hong Kong, annonce cesser ses activités en raison de difficultés financières. Fondée par un ancien cheminot chinois et surtout ancien leader du mouvement de Tiananmen, l'organisation suivait les fermetures d'usines et les manifestations ouvrières en Chine. 60 groupes de la société civile à Hong Kong n'ont pas survécu depuis l'imposition en 2020 par Pékin de la loi sur la sécurité nationale. Éclairage de Jean-Philippe Béja, sinologue et chercheur au CERI. Il a été joint par Yelena Tomic.
La fermeture du China Labour Bulletin est véritablement une nouvelle extrêmement triste pour à la fois l'avenir de la société civile à Hong Kong, mais aussi pour le mouvement ouvrier en Chine. C'est une des plus vieilles organisations qui a été créée en soutien aux ouvriers chinois. Elle a été créée en 1994 par un ancien fondateur du comité autonome des ouvriers de Tiananmen en 1989 et elle est installée à Hong Kong depuis 1994. C'est une organisation qui donne énormément d'informations sur l'évolution de la condition ouvrière en Chine, qui informe également sur les diverses luttes et qui a toujours fait très attention de ne pas remettre en question la direction du Parti communiste chinois et de ne jamais s'engager en termes de politique chinoise. Alors on se demande pourquoi un parti qui se présente comme l'avant-garde du prolétariat peut être inquiété par une telle organisation. Après la dissolution ou l'autodissolution d'une soixantaine d'organisations de la société civile à Hong Kong, cette fermeture apparaît comme un peu le dernier clou dans le cercueil de cette société civile hongkongaise qui faisait la spécificité de ce territoire.
Et ce soir, le site web de cette ONG est déjà inaccessible. Dans la région encore, en Corée du Sud, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce samedi à Séoul pour la marche annuelle des fiertés de soutien aux personnes LGBT+, avec pour la première fois la participation d'une agence gouvernementale, en l'occurrence l'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies. Ainsi se termine ce journal. Toute l'actualité au Proche-Orient se suit toutes les heures sur notre antenne et en temps réel avec le live blog d'RFI.fr. Tout de suite, Mondial Sport, je vous retrouve juste après pour un prochain journal.